Voici votre rendez-vous avec l'actualité des médias francophones publics. Comme chaque semaine, voici l'accent des autres avec la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada, la RTBF et France Inter. La France qui généralise les mesures de restriction réservées jusqu'ici à quelques départements, Éric Delvaux.
Oui, à partir de ce samedi soir, plus question de se déplacer à plus de 10 km autour de chez soi sans attestation. Les voyages interrégionaux seront interdits sans motif impérieux. Autant de mesures qui désespèrent les professionnels du tourisme.
Et à propos de tourisme, le gouvernement belge décide de limiter le nombre de places disponibles dans certains trains, ceux qui vont vers la côte. Jacques Crémers, c'est une mesure anti-Covid qui a fait polémique cette semaine.
Les voyageurs en partance pour la côte ne peuvent désormais plus s'asseoir que du côté fenêtre, une mesure critiquée jusqu'au sommet de la Société belge des chemins de fer.
Et puis ce nouveau tour de vis aussi au Canada, Sébastien Desrosiers, face à une troisième vague de la pandémie, plusieurs régions canadiennes ordonnent un nouveau confinement.
La province la plus peuplée, l'Ontario, compte plus de patients aux soins intensifs qu'à n'importe quel moment depuis le début de la pandémie. Les variants du virus se propagent entre autres à Toronto, mais aussi à Québec et à Vancouver.
Nous serons aussi au Mali cette semaine avec vous, Nicolas Sûr, et ses accusations de bavure contre l'armée française.
Oui, la polémique dure depuis le mois de janvier, mais cette fois-ci, c'est l'ONU qui publie le résultat de son enquête. Selon son rapport, la frappe menée par l'opération Barkhane contre le village de Bounti a bien coûté la vie à 19 civils. À Paris, l'armée campe sur ses positions et affirme avoir tué des djihadistes.
Enfin, en Suisse, la commune bernoise de Moutier a décidé de rejoindre le canton du Jura. C'est l'épilogue, Pierre-Anne Chauffat, d'un long combat pour l'indépendance.
Oui, un scrutin local sous haute surveillance de la Confédération qui clôt la question jurassienne dont l'origine remonte au Congrès de Vienne.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine. La France généralise donc les mesures de restriction qui étaient réservées jusqu'ici à quelques départements. Plus question de se déplacer à plus de 10 km autour de chez soi sans attestation. Et ça va durer au moins 4 semaines. Les crèches, les écoles, les lycées fermeront dès la semaine prochaine. Le télétravail doit être systématisé. Et puis à partir de mardi, après le week-end de Pâques, les déplacements entre régions seront interdits, sauf motif impérieux. Autant de mesures qui compromettent la quinzaine des vacances qui débutent et voilà les professionnels du tourisme une nouvelle fois dans la tourmente, Philippe Lefebvre.
C'est un nouveau coup dur pour tous ceux qui vivent du tourisme, car généralement Pâques est une période de grand départ. Si on prend la dernière saison normale, entre guillemets, c'est-à-dire Pâques 2019, eh bien 20 millions de Français étaient alors partis en vacances. Et ces dernières semaines, les chiffres de réservation, malgré les incertitudes sanitaires, étaient d'ailleurs plutôt bons, entre 40 et 50% de taux de remplissage selon les établissements, si l'on en croit Didier Arino, le directeur du cabinet Pro Tourisme.
Les locations de meublés, les résidences de tourisme étaient plutôt bien réservés et surtout les acteurs du tourisme s'attendaient à des réservations en masse de dernière minute comme on a pu le constater pour les vacances de février. Ça signifie très concrètement une perte de plus de 4 milliards d'euros pour l'hébergement et pour la restauration et plus de 10 milliards d'euros sur ce seul mois d'avril pour l'ensemble de la filière tourisme.
Et dans les prochaines heures, les loueurs de maisons, les dirigeants d'hôtels, de résidences hôtelières ou de clubs de vacances devront faire face à des milliers d'annulations et à des milliers de demandes de remboursement, même si certains clients ont annoncé ces jours derniers qu'ils viendraient tout de même, quitte à payer une amende de 135 euros.
Reportage de Philippe Lefebvre donc pour France Inter. Et puisqu'on parle de tourisme, les Belges qui se rendent à la côte en train ne peuvent désormais plus s'asseoir que côté fenêtre. L'objectif, Jacques, c'est de limiter le nombre de voyageurs vers le littoral en particulier, mais la mesure divise jusqu'au sommet du rail.
Oui, c'est une décision des gouvernements. La SNCB doit limiter le nombre de places dans ses voitures en réservant les seuls sièges côté fenêtre aux voyageurs. L'objectif est d'éviter la propagation du virus dans des wagons qui seraient bondés, mais les syndicats et la patronne du rail estiment que ce n'est pas au personnel de la SNCB, la Société du rail, de contrôler le flux des voyageurs. Ils réclament plus de moyens pour que tout se déroule dans les meilleures conditions de sécurité possibles. L'une des leaders syndicaux, affirmant que les agents du rail ne sont pas des videurs de boîtes de nuit. Mais le ministre en charge de la mobilité a confirmé la disposition, appelant chaque citoyen à choisir d'autres destinations que le littoral belge pour aider la SNCB.
Alors les conditions météo ne sont pas très favorables pour les prochains jours et ça devrait sans doute, Jacques, décourager de nombreux Belges de se rendre vers la côte. C'est tout l'inverse finalement de ce qui s'est produit en début de semaine.
Oui, car en début de semaine, il faisait grand soleil avec même un nouveau record de température. Les écoles étant fermées, de nombreux Belges se sont rués vers le littoral. Résultat, parfois plusieurs heures d'attente, beaucoup d'énervement et en fin de compte, une affluence massive, l'inverse de ce qui est recherché. Plusieurs députés se sont déclarés favorables à un système de réservation, mais en attendant, c'est le système côté fenêtre qui est d'application pour la durée de ce congé de printemps.
Et puis un mot aussi de l'impact de la pandémie sur la culture. Une nouvelle annulation cette semaine en Belgique. Pas de festival Couleur Café à Bruxelles en juin. Il avait réuni 23 000 personnes sur 3 jours en 2019. Ça fait donc 2 ans déjà. Et puis en Suisse, cette fois, 2 grands festivals ont pris des décisions opposées cette semaine face au Covid. Pierron.
Oui, Paléo Agnon a tiré la prise. Il n'y aura pas d'édition 2021 pour ce grand festival en plein air qui accueillait plus de 30 000 spectateurs chaque soir pendant une semaine. La situation est bien trop incertaine. Le festival de jazz de Montreux, en revanche, aura bien lieu début juillet sur 15 jours, mais dans une version réduite. Avec ce festival urbain, il est possible de créer des scènes avec de plus petites capacités. Conséquence, il y aura 10 fois moins de spectateurs, mais son directeur tenait à maintenir un projet pour les artistes.
La situation au Canada à présent, elle n'est pas meilleure qu'en Europe. Certaines régions du pays ordonnent un nouveau confinement. Sébastien, les variants du virus alimentent les inquiétudes, entre autres dans les grandes villes comme Toronto, Vancouver et Québec.
Oui, Toronto et toute la province de l'Ontario, la plus peuplée du pays, sera en confinement pour tout le mois d'avril. Ce qui veut dire que des commerces non essentiels doivent fermer, les restaurants et les salles de gym également. L'Ontario compte plus de patients aux soins intensifs qu'à n'importe quel moment depuis le début de la pandémie. Le variant britannique en serait responsable, alors qu'à Vancouver, sur la côte ouest, c'est le variant brésilien. En fait, cette région du Canada a la plus forte concentration du variant brésilien à l'extérieur du Brésil. Et puis le Québec, province la plus endeuillée au pays, met entre guillemets sur pause certains secteurs, dont la capitale, la ville de Québec, où l'école en personne est suspendue. Pour les élèves, voici le premier ministre François Legault.
Ça arrive très rapidement. Avant, on pouvait dire, on prend une journée ou deux pour mettre en place des mesures, puis on regarde aller la situation. Là, il faut vraiment agir rapidement. Avec le variant, ça peut exploser. Puis, comme on le dit, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, c'est important, l'alarme a sonné.
Voilà, le premier ministre québécois. Donc, cela dit, Sébastien, les vaccins arrivent désormais plus nombreux.
Depuis des mois, le problème ici, c'est l'approvisionnement qui nous provient d'Europe ou des États-Unis. Mais la cadence s'accélère. Justin Trudeau promet que le pays recevra 44 millions de doses d'ici juillet de Pfizer-BioNTech, Moderna et AstraZeneca. Bientôt, 15% des Canadiens auront reçu une dose et tout le monde sera vacciné en principe d'ici la fin du mois de septembre.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Sur le continent africain, cette fois, les enquêteurs de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, livrent leurs conclusions. Selon leur rapport publié cette semaine, Nicolas, la frappe menée par l'aviation française le 3 janvier dernier dans le centre du Mali a essentiellement tué des civils.
Oui, ce dimanche 3 janvier était bien jour de mariage à Bounti, petite localité du Gourma malien, et une centaine d'hommes étaient réunis pour l'occasion, loin des femmes, un peu à l'écart du village. C'est ce groupe qui aurait essuyé la frappe meurtrière de l'opération Barkhane. L'ONU, qui dit avoir procédé à une centaine d'auditions, affirme que 19 des 22 personnes tuées étaient des civils, les 3 autres effectivement des combattants djihadistes affiliés à une katiba locale. Cette version corrobore largement celle diffusée dès le lendemain de la frappe par une association locale, mais à Paris, l'état-major, comme la ministre des Armées, maintiennent un démenti catégorique. Pour eux, c'est bien un groupe de terroristes qui a été visé. Les autorités militaires françaises mettent en cause la méthodologie employée par l'ONU et la fiabilité des témoignages recueillis. Elles affirment aussi être certaines de la qualité des renseignements qui ont conduit au bombardement. Interrogées sur la possibilité, pour clore toute polémique, de publier les éléments dont elles disposaient pour mener la frappe et notamment les images du drone envoyé sur place, la ministre des Armées oppose toutefois un refus catégorique. Pas question, affirme Florence Parly, de renseigner nos adversaires sur ce que nous savons de lui.
On va se quitter en Suisse cette semaine où la question jurassienne est définitivement réglée. On va y revenir avec vous, Pierre Anchoffat. Les habitants de la commune de Moutier ont décidé dimanche dernier de quitter le canton de Berne pour rejoindre celui du Jura. Pierre-Anne, la cause indépendantiste helvétique a trouvé son épilogue.
C'est vrai, c'est un peu notre Catalogne à nous, un long combat autonomiste qui remonte au traité de Vienne en 1815, quand les grandes puissances attribuent au canton de Berne les territoires de l'évêché de Bâle, ce qui crée du même coup une minorité francophone dans un canton germanophone, une minorité catholique dans un canton protestant. Une minorité assez forte pour développer une solide culture identitaire. Cette lutte pour l'indépendance passera, comme toujours en Suisse, par des votations successives, 1974 pour la création du canton du Jura, mais les districts du Sud refusent, un choix confirmé un an plus tard. Ce sera encore non à la réunification en 2013. Seule la commune bernoise de Moutier vote pour le Jura.
Voilà, et depuis, c'est cette petite ville de 7400 habitants qui a incarné la cause autonomiste.
Oui, exactement, et qui a crispé les relations entre les deux cantons. Selon le processus négocié sous l'égide de la Confédération, il faut un nouveau vote de Moutier pour confirmer que cette commune veut bien partir seule dans le Jura. Un premier oui très serré en 2017, mais le scrutin est invalidé par la justice bernoise en raison de l'activisme du maire de la ville et de manquements dans la tenue du registre électoral. Et puis dimanche dernier, un oui plus clair cette fois, au grand soulagement du socialiste jurassien Pierre-Alain Fridé.
Cette fois, il y a véritablement eu la votation la plus surveillée des surveillés d'Europe. La Confédération s'est beaucoup plus impliquée. Avec 55% de oui, on est dans une telle différence. Plus personne ne pourrait imaginer que des recours aboutissent.
Et en effet, le président du gouvernement bernois, Pierre-Alain Schneck, ne conteste pas le résultat, mais il regrette la perte de ses 7400 citoyens.
Pour la minorité francophone, c'est beaucoup, c'est dommage, nous regrettons leur départ, mais la majorité est claire et nous leur souhaitons plein succès dans le nouveau canton et nous réjouissons que les relations se normalisent rapidement entre nos régions.
On entend le ton et cette fois à l'apaisement, tout semble indiquer que cette longue question jurassienne est bien réglée.
Merci Pierre Anchoffat pour la Radio-Télévision Suisse et merci à tous. C'était l'essentiel de l'actualité des médias francophones comme chaque semaine avec RFI, Radio-Canada, la Radio-Télévision Suisse, France Inter et la RTBF. On se retrouve la semaine prochaine, l'accent des autres fidèles au poste pendant le congé de Pâques.